première année. Et Maxime Bernier lance un appel aux gens désabusés de la façon traditionnelle de faire de la politique. C'est ainsi qu'il l'a exprimé. Et sans se prononcer sur ce qu'il considère comme un pourcentage satisfaisant, il se dit certain que plus d'un candidat de son parti sera élu.
Le retour d'Éric Duhem. Élection fédérale. Les dernières 24 heures.
Là, les dernières 24 heures, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est quasiment les dernières 24 heures de la campagne. C'est pas vrai. Juste les dernières 24 heures passées, mais futures. Parce que, en fin de semaine, honnêtement, là, tu sais, à partir de dimanche, il se passera plus grand chose. Puis lundi, il se passe absolument rien. On laisse les gens voter. Le lundi, on vous parlera pas de politique. On commencera pas à vous dire qu'un tel, c'est un pas bon. Puis l'autre, il est bon, là. C'est pas le temps. Et aujourd'hui, Marc, pour cette dernière, partie des dernières 24 heures, j'ai pensé recevoir celle qui, selon moi, est la meilleure analyste, la plus grande spécialiste des sondages au Québec. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de volatilité entre les résultats des élections un peu partout en Occident ces dernières années par rapport Vraiment. Aux sondages. Et il y a une femme qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal qui voit clair là-dedans et qui peut peut-être nous aider à enlever un peu de nuages autour des chiffres qu'on a présentement dans les sondages. Il s'agit de Claire Durand, donc professeure à l'Université de Montréal en sociologie. Madame Durand, bonjour.
Bonjour.
Donc, Madame Durand, j'essaye de comprendre ce qui se passe présentement. Écoutez, c'est... On a l'impression que c'est né à né. En tout cas, si je me fie à Nanos ou à QC 125, on nous dit que c'est vraiment 31-31. Des fois, les conservateurs sont une petite affaire plus haut en termes de pourcentage, mais on dit qu'en termes de sièges, ça pourrait signifier un petit peu moins. Est-ce qu'il faut croire ces sondages-là ou on va avoir une surprise lundi soir?
Si on va avoir une surprise, justement, ça va être une surprise. Donc, on peut pas le savoir... d'avance. Mais ce qu'on a en ce moment, c'est sûr, c'est que les deux partis sont à égalité. C'est arrivé en 2004 au Canada.
Oui.
Les deux partis à égalité dans les intentions de vote. Et puis, au final, les libéraux ont eu 7 points de plus que les conservateurs.
Hey boy.
Oh boy.
C'est
arrivé aussi, si vous vous rappelez bien, à la dernière élection québécoise.
Oui, oui, il disait que la CAQ et les libéraux, c'était année à année.
La CAQ et les libéraux. Et puis, au final, ça a donné 10 points de plus à la CAQ. Dans ces deux cas-là, on sait maintenant, parce qu'on a pu faire des recherches, que ce qui est arrivé, c'est que durant la dernière fin de semaine, là où vous dites qu'il se passe plus rien, il se passe parfois des choses dans la tête des électeurs
c'est
parce
sûr.
Que les électeurs ont changé d'idée. Et ils sont, par exemple, dans le cas de l'élection québécoise, les indécis sont passés à 55% à la CAQ, puis les gens qui ont changé d'idée sont aussi passés à 55% à la CAQ.
Mais c'est ça qui est difficile à comprendre, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la science évolue. T'sais, la météo est de plus en plus précise. Elle se trompe, mais beaucoup moins souvent qu'avant. Puis les sondages, bizarrement, en politique, on a l'impression que c'est le contraire. À toutes les élections, ils se trompent de plus en plus.
C'est pas vraiment vrai. Okay. Parce que, entre autres, il y a des gens qui ont analysé les sondages de 330 élections à travers le monde dernièrement. Et puis, ils ont montré qu'au contraire, l'erreur diminuait avec le temps et beaucoup moins fréquente maintenant que dans les débuts des sondages. Ce qui se passe, par contre, c'est que les sondages ne peuvent pas prédire que quelqu'un décide de changer à la dernière minute. Ça, ils pourront jamais prédire ça. Et donc, le vote est probablement plus, on dit, volatile qu'il était. Mais comme là, moi, j'ai regardé dernièrement les indécis, OK? Les gens qui disent qu'ils pourraient changer d'idée.
C'est qui, ça?
Et ça donne que les conservateurs et les bloquistes sont relativement certains, plus certains de leur choix. Mais les libéraux et les personnes du NPD peuvent, eux, plus facilement aller d'un parti à l'autre. Et d'ailleurs, les gens du Bloc peuvent aussi dire que leur deuxième choix à 30%, c'est le Parti conservateur. Donc, les gens ont un deuxième choix, sauf les conservateurs, en passant, qui sont ceux qui ont le moins de deuxième choix. Les autres partis, les gens ont un deuxième choix et donc peuvent décider de changer d'idée. Et ça, les sondages, ben moi, j'essaie de voir si on peut prédire ça, mais c'est très dur à mesurer.
Madame Durand, dans les dernières élections que moi j'ai suivies, entre autres aux États-Unis, en France, au Québec, puis la dernière canadienne, les gagnants ont toujours été des candidats qui se présentaient pour la toute première fois. Ça se peut-tu que l'électeur soit plus allumé, je dirais, qu'avant à l'idée d'un petit nouveau?
Ça, je pourrais pas vous dire que parce que si je me souviens bien, mes collègues de sciences politiques ont au contraire tendance à dire que ce qu'on appelle les incumbents, là, ceux qui sont déjà ont un certain avantage.
Okay.
Mais c'est pas vraiment mon domaine de recherche, donc c'est pas quelque chose que j'ai regardé.
Okay.
Une chose est sûre, c'est que on a tendance à penser que c'est toujours les mêmes gens qui votent, et c'est pas vrai. Certains partis vont et certains événements vont mobiliser plus les gens. En 2012, par exemple, les jeunes sont allés autant voter que les plus vieux.
Ça, c'était l'impact 2014, marijuana. Là, on a pensé que c'était peut-être parce que... C'était tout ça? Oh non, c'était pas l'élection, c'était l'élection de la 2015, qu'on disait que les jeunes avaient voté à cause de la marijuana, la légalisation du pot.
Oh, je pense pas que c'est des... En 2015, les jeunes sont pas allés autant voter que ça. Okay. En 2014, au Québec, les non-francophones sont allés plus voter parce qu'ils étaient nettement plus contre la charte des valeurs. Donc, il y a des enjeux comme ça qui peuvent mobiliser des gens. Dernière élection provinciale, on pense que, par exemple, la question de l'environnement a motivé beaucoup de jeunes qui décidaient de voter pour Québec solidaire, par exemple.
Mais là, parlons-en de cette élection-ci. Est-ce que le profil des gens... parce que j'ai regardé là, au niveau de l'âge, on sait que les conservateurs, par exemple, on dit toujours que leur électorat est un peu plus âgé puis que c'est des personnes qui se présentent davantage le jour du vote. Je voyais, par exemple, ici, on a une circonscription qui est très serrée. Là, dans Beauport-Limoilou, le conservateur venait juste par 2 points, mais chez les 65 ans et plus, il y avait une avance de 17 points. Est-ce que ça, c'est effectivement des données qu'il faut regarder au-delà des chiffres, de dire « Ah, c'est serré », c'est possible que si la sortie de vote est différente d'un groupe d'âge à l'autre, c'est pas si serré que ça, là.
Effectivement, les jeunes, c'est 28, les 18-34 ans, là,
ouais.
C'est 28% de l'électorat au Canada, des gens qui ont le droit de vote
okay.
au Canada. Mais les jeunes vont voter moins que les plus vieux. Et donc, les plus vieux, les 60 ans et plus, c'est 30% de l'électorat. Et puis, comme ils vont plus voter, ben écoutez, ça fait peut-être 33-35%. Des gens qui vont voter. Donc, on pense que les vieux ont plus d'influence, les plus vieux, là, vieux pas tant que ça, là, mais les plus vieux ont plus d'influence sur le vote, d'une part. Par contre, ce qu'on a vu à la dernière élection provinciale, c'est que avant, on disait que passé sous 55 ans, là, les gens avaient leur idée faite, puis ils changeaient pas beaucoup de parti. Maintenant, on voit que les 60 ans et plus, c'est des baby boomers, puis ils ont commencé leur vie en changeant beaucoup, et donc sont possiblement moins réfractaires au changement que la génération des gens âgés avant eux.
C'est intéressant. Vous savez, j'ai vu aussi que vous disiez que les gens qui refusent de répondre et qui sont plus discrets sur leurs intentions de vote ne sont pas nécessairement si indécis que ça et que c'est peut-être des gens qui sont plus discrets. Puis historiquement, les gens qui sont plus à droite ont moins de, je dirais pas de fierté, mais moins tendance à démontrer leur parti pris. D'abord, comment ça se fait? Puis deuxièmement, est-ce que ça peut faire la différence en termes de pourcentage le jour du vote?
Ça peut faire une différence. Une chose est sûre, c'est il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, mais on sait que quand les sondages se trompent un peu, disons, la plupart du temps, presque tout le temps, c'est les conservateurs qui sont sous-estimés. Au Canada, c'est environ 4 points.
Hey boy, c'est beaucoup.
Et ça, c'est assez fréquent, particulièrement en Ontario. Et les partis qui ont plus tendance à être surestimés, c'est les Verts, certainement. Ils sont probablement assez fortement surestimés. parce que les gens qui votent vert, qui ont pas vraiment de chance d'élire un député, vont avoir plus tendance soit à changer de parti, soit ne pas aller voter. Et puis, les partis surestimés, c'est aussi habituellement le Bloc et le NPD.
Qui sont surestimés. Fait qu'on pourrait avoir des résultats. Donc, le Bloc que tout le monde on voit très en avance, peut-être que ça sera pas l'avance, ne sera pas si large que ça. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la campagne qui fait que vous avez observé qu'il y avait eu un changement? Parce qu'on a quand même vu que si on regarde les sondages au début de l'élection, puis si on regarde ceux aujourd'hui, on voit très clairement, au Québec et même au Canada, d'importants changements. Est-ce qu'il y a un moment précis où vous avez pu noter qu'il y a un avant puis un après?
Dans les campagnes fédérales, à peu près toutes les campagnes fédérales depuis 2000. 2000, c'est la dernière élection où il n'y a pas eu de changement, d'accord?
Okay.
Toutes les autres élections après, il y a eu des changements et les changements sont presque toujours dans les deux dernières semaines, donc d'une certaine manière, presque toujours après les débats. Au Québec, ça bougeait pas beaucoup avant le débat TVA. Le Bloc était déjà en montée et les conservateurs étaient déjà en train de descendre. Mais, disons, plus lentement. Et le débat à TVA a un peu accéléré les choses. Maintenant, au Québec, en ce moment, il y a des sondeurs qui mettent le Parti libéral en avance sur le Bloc et d'autres qui mettent l'inverse. Il faut comprendre que les sondages au Québec ont une marge d'erreur importante parce que les échantillons sont pas si gros que ça. Et donc, la meilleure conclusion en ce moment, c'est que le Bloc et le Parti libéral sont à égalité.
C'est ça, mais nous autres, c'est dans la région de Québec, c'est sûr que nous, on est un microcosme, peut-être, là. On résiste aux tendances nationales, mais on a comme l'impression qu'il y a 3-4 campagnes au Québec. Là. Je regarde l'ouest de l'île de Montréal, je vois pas beaucoup de mouvements, là, c'est rouge depuis un siècle. Je pense pas qu'on va avoir des surprises lundi soir de ce côté-là. Les banlieues de Montréal ont l'air d'être entichées pour le Bloc. Nous, à Québec, les conservateurs, ils vont peut-être avoir une perte ici ou là, mais ils vont quand même garder leur château fort. J'ai comme l'impression, c'est comme si le Québec était maintenant divisé en 3-4 morceaux, là.
Mais c'est pas maintenant. Je pense que c'est un peu... C'est le cas depuis longtemps. Et le Canada aussi est divisé en plusieurs morceaux. La dynamique en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, dans les Maritimes, dans les prairies, c'est des dynamiques très, très, très différentes. Dans les prairies, dans la plupart des cas, c'est 60-70% conservateurs. Alors que en ce moment, il y a une bataille entre le NPD et le Parti libéral en Colombie-Britannique. Ils sont à égalité. Et en Ontario, ben là, c'est plutôt le Parti libéral semble en avance assez presque confortable, je dirais, sur les conservateurs.
Mais en même temps, le Doug Ford a été élu, puis on pensait que c'était né à né avec le NPD ou le NPD est en avance. On peut encore avoir une surprise du côté de l'Ontario. Ils ont l'air d'être assez... ils ont pas l'air d'être gentils avec les sondeurs en Ontario. À chaque fois, ils se trompent.
Ouais, mais moi, j'ai une boutade qui dit quand c'est égal, c'est pas égal. Et que quand on a deux partis égaux, habituellement, la plupart du temps, mais pas toujours, c'est le parti le plus à droite qui est en avance. C'est un peu comme si quand c'est assez égal, les conservateurs vont avoir peut-être plus tendance à cacher leur vote que quand ils sont dans une situation où ils sont fortement en avance, comme Alberta, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, par exemple.
C'est intéressant. En tout cas, on va savoir si les sondeurs avaient raison lundi soir assez vite. Merci.
Pas avant ça,
c'est ouais. Certain. Pour ceux qui veulent vous suivre, vous avez un blog, je pense que c'est lessondages.blogspot.com. Ceux qui veulent vous suivre, pour en savoir davantage sur... Les méthodologies, puis comment ça fonctionne, puis pour mieux comprendre un peu cette science, on les invite à consulter votre blog. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Claire Durand, de nous avoir accordé cette entrevue.
Merci.
Au revoir. Claire Durand est professeure à l'Université de Montréal en sociologie et spécialiste des sondages.
Le retour d'Éric Duhaime, FM 93. Ça me parle.